Je peux dire la même chose que Christine, vraiment. C'est-à-dire, d'une part, je remercie Françoise et son équipe de m'avoir invitée, et d'autre part, je pense que c'est une bonne occasion de croiser les approches. Sciences du langage, certes, sciences de l'éducation, information, communication, EIH, ça a été évoqué par Nabil dans sa présentation tout à l'heure. Je pense qu'on travaille tous de près ou de loin avec des informaticiens qui nous construisent des outils. Et en fait, on s'interroge sur les usages. J'aurais peut-être l'occasion, je ne sais pas trop, de revenir sur le mot concepteur qui a été présenté aussi tout à l'heure, concepteur-utilisateur. Moi, je voudrais que les deux soient dans la même approche et je me place sous le signe de l'approche de Rabardel, conception dans l'usage. C'est-à-dire, pour moi, le terme d'usage, un concepteur est un usager, on va le voir dans, je pense, dans ce qu'on va partager. Alors, l'équipe Eductis également, hein, qui est présentée ici, Christine Develotte, Françoise Poyez sont dans l'équipe Eductis. D'autres personnes qui sont ici sont rattachées à un certain nombre de projets dans lesquels l'équipe Eductis est également. L'idée, c'est que quelque part, ces questions-là, elles sont interdisciplinaires. On ne peut pas les traiter de façon cloisonnée en disant je regarde, j'ai un regard d'enseignant, j'ai un regard de chercheur, j'ai un regard d'étudiant. Il y a un moment où les choses sont croisées. Alors, j'avais lu les trois questions proposées, je les trouvais particulièrement intéressantes. Simplement, je me suis permis de partir de, non pas usage prescrit par le concepteur, mais usage prescrit par l'institution. Alors pourquoi prescrit par l'institution? Parce qu'effectivement, on a le certificat informatique et Internet qui est obligatoire, en théorie depuis un certain nombre d'années. En réalité, on ne sait pas trop s'il est encore et obligatoire aujourd'hui. La notion d'obligation à l'université en ces temps de grève, point de suspension. Il n'empêche que si on est enseignant, enseignant-chercheur, prescripteur, peu importe, on sait que les étudiants ont à valider un niveau de maîtrise des compétences d'usage des TIC. Si on regarde au niveau européen, on a effectivement les key competencies avec cette compétence qui est prescrite. Elle est non seulement prescrite, elle est obligatoire. Donc, sur la partie droite de ma diapo, vous avez la prescription du C2I niveau 1, c'est-à-dire le niveau demandé à tout étudiant à bac plus 2. Avec effectivement des prescriptions qui sont assez précises, hein. Production en situation de travail collaboratif, je ne prends que celle-ci, puisqu'elle a été évoquée par plusieurs des présentations depuis le début de cet après-midi. Le reste, on peut laisser, mais j'ai entendu souvent production en situation de travail collaboratif, ça fait partie des obligations. À côté de ces obligations, ces deux-ci, on a un certain nombre de discours. Alors, je vais parler de discours et non pas de prescriptions. Qui disent effectivement que les étudiants d'aujourd'hui, ils sont tous tombés dedans quand ils étaient petits. Je le dis de façon familière, je l'ai écrit de façon plus formelle. C'est-à-dire qu'effectivement, à travers leurs usages personnels et privés et sociaux des technologies numériques, eh bien, ils sont aptes à utiliser tout ça. On sait bien que dans la réalité, on trouve encore, enfin, au moins dans certaines disciplines, y compris en informatique. Je le signale parce que j'ai l'occasion de temps en temps d'aller faire quelques cours dans des endroits où il y a des informaticiens, une difficulté à utiliser les outils. Pourquoi? Parce que, ça a été dit par Christine tout à l'heure, les outils vont beaucoup plus vite que la pédagogie et l'innovation technologique, c'est quelque chose d'absolument permanent et galopant, alors que la pédagogie prend son temps. Alors, les discours autour de la familiarité des étudiants avec le web. Ben quand, comme moi, on a un peu d'ancienneté, je pourrais dire la même chose avec Viviane, hein, on sait que depuis 40 ans, on nous tient des discours comme ça sur cette prétendue aisance des jeunes à utiliser les outils numériques. Donc, on a très régulièrement des discours. Alors, j'ai cité des discours solides, hein, celui de Seymour Papert, Jaillissement de l'esprit, ça date de 81, on peut le relire, hein, c'est tout à fait intéressant d'y retrouver des discours. Les discours de Pierre Lévy sur l'intelligence collective, puisqu'on a parlé tout à l'heure de travail collaboratif, ça vaut le coup aussi de relire le bouquin de Lévy. Et puis des plus récents, plutôt, on va dire, utopiques, avec des approches très, très technicistes. Alors, j'ai envie de partager avec vous une question. Les outils, ben oui, les outils, j'ai dit tout à l'heure à Bardel, mais les outils, ça devient nos instruments, ça dépend ce qu'on en fait. Alors, juste parce que j'ai pensé qu'à l'heure de la digestion, j'avais prévu de parler à l'heure de la digestion. les images seraient plus parlantes que les discours, je me suis dit qu'il fallait qu'on regarde les acteurs. Donc si on dit les usages, pour quels acteurs ? Les acteurs, ça peut être effectivement un regard sur les enseignants. Les photos qui sont sur cette diapo sont des photos que je fais. Je fais très très souvent des photos dans les situations où on utilise des outils. Et ça me sert de trace et ça me permet d'analyser les usages. Je fais souvent des photos comme ça au hasard. Alors en fait, pourquoi ? Parce que je voudrais revenir à l'idée de Rabardel, les outils et les instruments. L'outil, eh bien, il existe. On l'a créé pour répondre à un besoin qui n'est pas forcément ce pour quoi on va l'utiliser. À partir du moment où on l'utilise, ça devient un instrument. Alors, une spécialiste de l'orthographe que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Nina Katash, au tout début de l'enseignement assisté par ordinateur, a dit « peut-être qu'on est en train d'emballer de neuf la vieille marchandise ». Et on continue, hein, on vous dit que parce que le Becherel est en ligne, ça va être tellement plus ludique et tellement plus intéressant. Ben non, le Becherel, c'est le Becherel. Donc en fait, vous avez ici une situation parfaitement analogue. On parlait de l'Australie, ici c'est un ami australien, ça se passe à Melbourne. Ici on est en Allemagne, ça se passe à Dortmund. Et ici on est en Angleterre, ça se passe à Exeter. C'est à 2 années d'intervalle. Je connais ces enseignants, je travaille avec eux dans un organisme international. Ils sont tous enseignants-chercheurs et ils ont tous des façons d'enseigner. En fait, ils ont une stratégie pédagogique. Ils ont les mêmes outils, ils en ont parfois deux. Et puis voilà, ils ont une façon d'enseigner. Donc en fait, à travers cet outil, qui est un outil de présentation assisté par ordinateur, ils ont une façon d'enseigner. De la même façon... Si on regarde les machines et les salles, voilà 3 salles informatiques dans 3 universités différentes et qui consistent simplement à emballer de neuf la vieille marchandise. On a fait un petit effort ici, là, on a mis peut-être les tables en rond, une table au milieu pour travailler, mais quelque part, l'espace scolaire est assez intangible. Et puis maintenant, regardons les activités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'ordinateur à l'université ? Eh bien, on peut effectivement avoir ce que j'appelle une classe autobus, ou ce qu'on appelle une classe autobus, et puis un TD où effectivement le malheureux enseignant, bien qu'il ait un tableau blanc interactif, aura bien du mal à monopoliser l'attention de ses étudiants qui eux-mêmes, comme vous le voyez, sont très très attentifs et arrivent à manipuler et le clavier et l'écran et leur papier et leur discours en binôme. Comment voulez-vous qu'ils aient encore un tout petit peu de temps pour écouter ce que le prof essaye d'expliquer sur son écran dit interactif ? Donc en fait, on voit bien que les usages, c'est très très complexe à analyser. Ça a été dit depuis le début de l'après-midi. C'est pour ça que je dis on partage les mêmes questions. Et moi, quand on me demande d'observer les usages, je trouve que la question est beaucoup trop vaste. Donc en fait, on va observer quelque chose. On va avoir une entrée très particulière. Alors par rapport aux références, puisque on dit sur quelle théorie, sur quelle référence, j'ai clairement annoncé. Que j'avais cette entrée Rabardel, je continue, mais il y a aussi l'aspect historique. Jacques Perriot, là encore, 1982, la logique de l'usage, si vous n'avez pas lu le bouquin, lisez-le, en plus il est drôle, essai sur les machines à communiquer, je suppose que tout le monde a lu Perriot, eh bien effectivement, il parle de l'effet diligence, c'est-à-dire on a inventé la voiture par copie avec la diligence, bon ben voilà ce qu'on est en train de faire, on fait ça, c'est vrai que c'est intéressant, hein. C'est même très, très intéressant. Alors là, on avait effectivement un seul enseignant et un amphi. Ici, effectivement, l'enseignant est distant. Je pense qu'on est à peu près dans la situation que tu évoquais avec l'idée qu'il y a quelque part un enseignant ailleurs, hein, qui peut être d'une autre université, donc on a un petit plus. Et puis voilà, le TD. Alors le TD, bon, c'est suite tout à l'heure. Ou alors le TD en labo de langue. Et là, on voit bien que d'un point de vue didactique, on a quand même fait évoluer les choses. Donc quand on dit transposition, il ne s'agit pas de copier. Il s'agit de montrer qu'il y a une lente évolution, une lente appropriation. Et que cette appropriation pose à la fois des questions didactiques de la discipline, et pédagogiques, comment j'enseigne. Donc on ne va pas confondre l'idée de l'usage didactique et l'usage pédagogique. Si je m'intéresse à l'usage didactique, ici, je ne sais pas si ce cours en noir et blanc était un cours de didactique des langues, ici c'est le cas, on va avoir effectivement l'idée l'idée que peut-être en didactique des langues, il est intéressant d'avoir un locuteur natif pour telle ou telle raison. Donc on va avoir là une évolution. De la même façon, là, dans le laboratoire de langue, eh bien, on va avoir la possibilité d'individualiser l'apprentissage. Donc si je parle de locuteur natif, je vois bien que je parle de didactique de la langue. Et si je parle d'individualisation des apprentissages, je parle de pédagogie. Je veux une pédagogie la plus individualisée. Donc je ne vais pas parler d'usage en général, mais je vais parler d'usage par rapport à ce que j'attends. Donc effectivement, si je dis une logique de transposition, je prends ici un cours en ligne qui est sur l'Université Lyon 2, qui est prévu, alors j'ai mis pour la formation ouverte et à distance, parce que ça a été conçu comme ça à ce moment-là pour l'université, mais je ne sais pas si maintenant ça n'est pas aussi utilisé lorsqu'il y a des grèves et pour rattraper les cours. Donc c'est vrai en plus. Donc voilà un cours qui, d'un point de vue didactique de la langue, est parfaitement d'une didactique plus que traditionnelle, c'est-à-dire leçon, cours, exercice, test. Donc une didactique ancienne et une mise en scène pseudo-moderne. Donc la question c'est ça, c'est quels outils pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? Alors, je vais maintenant dire à travers ces usages prescrits, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc usage induit par l'outil, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'outil induit des usages. Comme je l'ai dit, il me semble que l'outil, eh bien, on en fait véritablement ce qu'on veut. Et au-delà donc de ces remarques générales, parce que c'était un cadrage un peu général, je voudrais m'appuyer sur un certain nombre de recherches qui ont été conduites sur une certaine durée, même une durée certaine, et avec un nombre, une population relativement importante. Alors, je ne vais pas parler donc d'usage des nouvelles technologies dans l'enseignement supérieur, mais simplement m'appuyer sur un campus numérique. Viviane est aussi auteur-concepteur, Jérôme est maintenant responsable du Master 1 et puis peut-être autre chose, je ne sais pas trop. Sur ce campus, responsable de tout peut-être sur le campus numérique, Jérôme, non mais globalement l'idée c'est une observation qui est... Enfin, je prends cette observation parce qu'on n'est pas dans des usages innovants. On n'est pas dans de l'innovation. On est en fait sur d'usages avérés. C'est-à-dire un campus qui fonctionne, entre guillemets, pour de vrai, avec 1400 étudiants, ceci depuis de nombreuses années. Donc, pourquoi je vais m'appuyer là-dessus ? Parce qu'effectivement, je voudrais clarifier la question de l'usage par rapport à l'introduction de l'ordinateur dans l'apprentissage. Si on regarde l'introduction de l'ordinateur dans l'apprentissage, on a en fait des configurations de type dual, c'est-à-dire l'apprenant et l'ordinateur, que cet ordinateur soit conçu pour de la remédiation, de l'individualisation, de la production. Par exemple, il s'agit simplement d'écrire son mémoire. Ou alors, on va avoir un didacticiel disponible sur lequel on va apprendre. Par exemple, je ne sais pas, on a tel ou tel CD-ROM qui permet de travailler. On a donc une relation duale. On va avoir une relation triangulaire avec l'idée que j'ai mis enseignant, mais j'aurais pu mettre acteur pédagogique. Vous avez évoqué beaucoup les tuteurs. Il y a pas mal de travaux qui sont faits sur le sujet, donc je n'y reviendrai pas. Et avec l'idée qu'effectivement, il y a cette relation triangulaire, dans les deux cas, on peut dire que l'ordinateur n'est pas communicant. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est simplement un outil d'apprentissage à un moment donné. Et bien sûr, l'ordinateur, ça veut dire avec des logiciels qui vont avec, des logiciels de type didacticiel pour apprendre ou de type progiciel pour produire, traitement de texte, etc. Donc là, on a effectivement l'idée que déjà, les choses sont différentes, il faut les penser différemment. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans cette partie-là, c'est-à-dire que la plupart des outils, des ordinateurs, enfin des outils, des environnements numériques sont communicants, et donc on va avoir une relation en réseau. Le titre de ma communication, c'est bien la question des réseaux. À partir du moment où on parle réseau, dispositif d'apprentissage en réseau, on voit bien que le réseau, il a trois branches. Il y a le réseau technologique, il y a des tuyaux, des fils, la connectique virtuelle ou pas. Le réseau technique. Il y a le réseau humain. Il y a une multiplicité d'acteurs qui sont proches ou lointains, qu'on va chercher ou qu'on ne va pas chercher, qui sont des pairs ou au contraire qui sont des gens hiérarchiquement inférieurs ou supérieurs, etc. Donc il y a tout un réseau de relations humaines à mettre en place et c'est extrêmement complexe. Et puis surtout, il y a un réseau de ressources. Donc si on dit qu'est-ce qu'un réseau, ce sont des outils, des ressources, des personnes, on voit la complexification de la situation. Donc mon schéma est loin de représenter cette complexité, puisque là je dis par exemple il y a un réseau de classes ou un réseau d'universités qui lui-même va correspondre avec le réseau d'une autre université. Si je prends l'exemple de Christine tout à l'heure, je dis ben, ici c'est l'université de Lyon 2, mais éventuellement ici il y aurait Grenoble 3, et puis tout ça parle avec Berkeley, et puis ceci peut parler avec... Bon. Donc effectivement cette relation réticulaire, elle est d'une telle complexité qu'elle nous oblige à penser véritablement à penser l'enseignement-apprentissage autrement. Et en fait, on se demande si on est capable de faire autre chose que d'améliorer un peu la diligence. Donc l'idée, c'est que l'espace éducatif, à travers ces réseaux, s'ouvre très très largement. C'est-à-dire que quand on pense enseignement-apprentissage, on est obligé de le penser en termes de complexification des situations. Alors j'ai parlé en tout début de ma présentation de la compétence, quelle compétence à développer. Si on revient à la diapo 1 et qu'on voit les compétences listées dans le C2I, je vais le faire parce que peut-être vous avez peut-être oublié ce qui serait normal, parce qu'on ne connaît pas le C2I par cœur. Et quand on regarde le C2I, voilà, on dit simplement recherche, création, manipulation, gestion de l'information, récupération et traitement des données, gestion des données, sauvegarde, archivage, recherche des données, présentation en présentiel et à distance du résultat d'un travail, échange et communication à distance. C'est un peu léger hein, comme formulation. C'est plus que léger. Parce qu'effectivement, si je reviens à ma préoccupation, c'est-à-dire ce petit réseau formulé ainsi, là, toc. Quand on regarde ça, eh bien on dit en fait, on voit bien qu'on va développer les compétences tout en les sollicitant. C'est-à-dire on apprend en faisant. Hein. Donc on voit que dès lors qu'on travaille sur des réseaux, on sollicite des compétences et on les développe en même temps. Alors dans des communications précédentes que je... Oui ? 5 minutes, je vais me dépêcher. Dans des communications ou des travaux précédents, vous trouverez, on a défini ces compétences, hein, qui sont souvent des compétences communicatives, beaucoup plus que des compétences technologiques, et puis des compétences d'apprentissage qu'on ne sait pas forcément développer. Alors, je passe là-dessus, puisque je n'ai pas le temps. Donc, l'idée, c'est que les dispositifs instrumentés dans l'enseignement supérieur, on peut les observer de façon large, ou on peut les observer sur une situation. Donc j'ai fait, comme ça a été dit dans les travaux précédents, je me suis intéressée à une situation. Alors je ne l'ai pas fait seule. J'ai conduit avec un collègue une première étude sur 2 ans qui a été financée par le Bureau des usages du ministère d'Éducation. Cette étude court en ligne à l'université, porte effectivement sur le campus que j'ai cité tout à l'heure. Et l'idée, c'était l'usage des cours hypertextuels. Donc on a étudié 40 cours qui sont disponibles. Étudier, ça veut dire on a observé comment ils sont faits. On a interrogé 15 concepteurs, c'est-à-dire 15 enseignants qui ont fabriqué ces cours. Et on a interrogé 150 étudiants qui sont usagers de ces cours pour faire un certain nombre de constats que je dirai tout à l'heure. Deuxième regard, cette fois-ci, donc cette étude sur les SACI. Alors SACI, je vais expliquer davantage. Dans le cadre d'un projet sur activités collectives et tutorat dans l'enseignement universitaire, réalité, scénario, ce projet se termine en décembre 2007. On a écrit pratiquement le rapport final. Et puis, on continue donc avec une étude plus... ce sera disponible rapidement. Et une nouvelle étude conduite, qu'on démarre seulement, où on va expérimenter des scénarios d'apprentissage. Alors, les résultats. La première recherche court en ligne à l'université. Quand je dis les résultats, en une page, il y a un rapport de 150 pages. C'est difficile de faire ça en une page. Mais globalement, si on regarde les enseignants. Donc les enseignants, ils disent effectivement qu'ils sont d'accord pour concevoir des cours hypertextuels, c'est-à-dire qui ont des liens sur Internet, mais que globalement, ils préfèrent avoir un parcours de type livresque, le noyau du cours, parce qu'au moins, ils structurent la connaissance, et ils mettent des liens hypertextes parce que ça permet effectivement aux étudiants d'aller plus vite, moins vite, d'approfondir, etc. Aucun enseignant n'est réticent, ils ne sont pas réticents du tout, ils s'approprient petit à petit ces outils. Et ils sont conscients du fait que les étudiants seront de plus en plus demandeurs de ce genre de ressources. Et donc, ils donnent volontiers des références sitographiques aux étudiants. Les étudiants, de leur côté, nous disent ne pas avoir de difficultés techniques et ils préfèrent majoritairement apprendre avec l'imprimé en sachant que s'ils apprennent en ligne, ils auront accès à ce qu'on appelle des documents connexes, c'est-à-dire des documents complémentaires. Mais ils font bien la différence, Internet pour s'informer, le papier pour se former. Ça, c'est en 2006, ça peut changer, je ne sais pas trop. Et effectivement, nous avons étendu notre recherche, notre équipe aussi, puisque nous sommes cette fois-ci 11 chercheurs, y compris, avec toutes les disciplines que j'avais évoquées tout à l'heure, informatique, sciences cognitives, ergonomie, etc. Et nous avons décidé de restreindre notre regard. Nous ne regardons que les situations d'apprentissage collectif instrumenté. Les questions sont sur cette page, donc je ne vais pas vous faire la lecture à haute voix. L'idée, c'est qu'on appelle situation collective une situation dans laquelle les étudiants doivent résoudre un problème. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de parler de coopératif, on partagerait le travail à plusieurs en sachant qu'il y a un résultat attendu, mais il y a une vraie question, on ne sait pas du tout comment on va procéder et on doit négocier, discuter, gérer le temps, s'organiser pour un résultat dont on ne sait pas à l'avance ce qu'il sera. Donc c'est quand même des spécificités à prendre en compte lorsqu'on parle de collaboratif. Là aussi, hein, la terminologie collectif, collaboratif est loin d'être stabilisée. Donc on observe essentiellement des situations de type jeu, problème à résoudre, étude de cas, débat. On essaye d'en dégager des invariants. Et derrière cette idée-là, eh bien, on analyse effectivement l'évolution des situations d'apprentissage. Alors, les situations observées, donc 20 situations, 12 campus francophones, c'est-à-dire belges, suisses, quelques campus qui sont au Québec, en France également, et avec une méthodologie qui est essentiellement ce qu'on a appelé des questionnaires accompagnés, c'est-à-dire des questionnaires très très complexes, donc on remplit en présence de l'enquêté. Résultat, écart, c'est notre sujet d'aujourd'hui, entre la prescription d'activités de collaboration et leur mise en œuvre effective, écart entre l'offre d'outils de collaboration et leur utilisation effective. Et effectivement, parce que c'était notre question, on s'intéresse au scénario, on peut faire l'hypothèse que les scénarios sont relativement manquants, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'utilisation effective, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de scénario d'usage. C'est-à-dire on a donné des outils de type wiki, blog, etc. Mais on n'a pas dit ni aux étudiants ni aux enseignants ce qu'ils pouvaient en faire. Donc souvent, ils ont des forums. Qu'est-ce qu'on va bien en faire? Des wikis, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire, etc. Alors, si vous êtes curieux, d'une part, sur le premier, c'est déjà disponible en ligne. Sur le deuxième projet, ce sera très prochainement en ligne. En attendant, il y a un certain nombre d'articles. Et effectivement, l'idée, c'est qu'on va avancer avec ce nouveau projet qui est scénario de situation d'apprentissage, etc. C'est on va proposer dans des dispositifs des scénarios d'usage des outils et voir si le fait de proposer un scénario est une sorte de médiation entre on vous donne des outils, vous avez des situations, peut-être qu'il vous manque les scénarios.